Au jour d'Achaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, Redzin, roi d'Aram, alla faire la guerre à Jérusalem avec Péka, fils de Remalia, roi d'Israël, mais il ne put engager le combat contre elle. On dit à la maison de David, Aram occupe Éphraïm. Le cœur d'Achaz et le cœur de son peuple se mirent à frémir, comme les arbres de la forêt sous le vent. Alors le Seigneur dit à Esaïe, sors, je te prie, à la rencontre d'Achaz, toi et Shariashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc du réservoir supérieur sur la route du champ du teinturier. Tu lui diras, sois tranquille, n'aie pas peur, que ton cœur ne mollisse pas devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère ardente de Redzin, d'Aram et du fils de Remalia, puisque Aram avec Éphraïm et le fils de Remalia projettent de te faire du mal en disant, partons à l'attaque de Juda, nous épouvanterons la ville, nous la battrons en brèche jusqu'à ce qu'elle se rende, et nous installerons un roi au milieu d'elle, le fils de Tabel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Cela ne tiendra pas, cela n'aura pas lieu, car la tête d'Aram, c'est Damas, et la tête de Damas, c'est Rezin. Encore 65 ans, Éphraïm brisé ne sera plus un peuple. La tête d'Éphraïm, c'est Samarie, et la tête de Samarie, c'est le fils de Remalia. Si vous n'avez pas foi, vous ne tiendrez pas. Le Seigneur dit encore à Achaz, demande un signe au Seigneur ton Dieu, soit dans les profondeurs du séjour des morts, soit dans les lieux les plus élevés. Achaz répondit, je ne demanderai rien, je ne provoquerai pas le Seigneur. Esaïe dit alors, écoutez, je vous prie, maison de David, ne vous suffit-il pas de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille est enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera du nom d'Immanuel, Dieu est avec nous. Il se nourrira de lait fermenté et de miel quand il saura rejeter ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon. Mais avant que l'enfant sache rejeter ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon, la terre des deux rois qui t'épouvante sera abandonnée. Le Seigneur fera venir sur toi, sur ton peuple et sur ta famille des jours tels qu'il n'y en a pas eu depuis le jour où Éphraïm s'est éloigné de Juda, le roi d'Assyrie.
Ça va, le texte est parfaitement compris. Même pas la peine que je prêche dessus. Dans la Bible, il y a parfois des surprises. Et clairement, le texte de ce soir est un de ces textes surprenants. On y trouve d'abord un épisode qui paraît assez anecdotique. D'autant plus pour nous qui le lisons à peu près 27 siècles plus tard. Et puis dans ce texte, qu'on a un peu du mal à comprendre, il faut le reconnaître, brusquement, de façon totalement inattendue, on découvre l'une des annonces les plus importantes de toute la Bible. Dans le cadre de l'Avent, c'est-à-dire, comme ça a déjà été dit, la période de 4 semaines qui précède Noël, nous allons nous intéresser au prophète Esaïe, à certaines sections de son livre, on ne va pas faire les 66 chapitres en 4 semaines, à certaines sections de son livre qui annoncent à l'avance la venue de Jésus, c'est ce que nous croyons, il y a 2000 ans. Et ce soir, on s'intéresse donc au chapitre 7, versets 1 à 17. Je l'ai dit, c'est un texte qui est ardu. Je me souviens quand j'étais à la faculté de théologie, on avait dû traduire ce texte et je m'étais dit, mais déjà en français, j'ai un peu du mal à m'y retrouver. Pour bien comprendre ce texte, il nous faut d'abord nous replonger dans le contexte de l'époque d'Ésaïe. Le contexte donc de la fin du 8e siècle au début du 7e siècle environ avant Jésus-Christ. Et donc, je propose une réflexion en deux temps. D'abord, on va avoir un décryptage. Ça, la technique a un peu du mal ce soir. Voilà, on y arrive. Je crois qu'un décryptage est nécessaire pour comprendre ce texte. Donc, la confrontation entre un roi et un prophète. On va voir que dans les versets 1 à 12, c'est essentiellement de cela qu'il s'agit. Et puis, dans un deuxième temps, une annonce, un signe pardon, inattendu. Dans les versets 13 à 17. Décryptage, donc tout d'abord, confrontation entre un roi et un prophète. Il y a beaucoup de distance historique entre ce texte et nous, avec tout un contexte géopolitique qu'on ne connaît pas forcément très bien. Et en plus de cela, il y a un langage poétique qui est utilisé et qui ne nous simplifie pas la tâche. Donc décryptons un petit peu. En fait, le verset 1 nous donne un contexte historique. C'est juste pas dans des termes qui nous parlent forcément à première vue. Mais il y a un contexte qui est donné. Au jour d'Achaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda. En fait, c'est précis. Et si on regarde le deuxième livre des rois, on a effectivement cette période qui est décrite et on peut situer précisément le règne du roi Achaz qui a commencé en 735 avant Jésus-Christ et qui s'est terminé en 715 avant Jésus-Christ. Or, l'épisode qui nous est raconté ici se situe au début du règne d'Akaz. Donc, c'est un très jeune roi qui a une vingtaine d'années sans doute, qui règne. Et à l'époque, le pays qui aujourd'hui correspond, on va dire, à Israël et les territoires palestiniens, ce pays était divisé en deux royaumes. Le royaume de Juda au sud, qui avait pour capitale Jérusalem. Vous voyez peut-être pas super bien, mais c'est ce qui est en vert, là, en dessous. Et puis au nord, le royaume d'Israël, ou parfois appelé Éphraïm dans certains textes de l'Ancien Testament, qui avait pour capitale la ville de Samarie. Et cette division du royaume en deux est survenue après la mort du roi Salomon, donc deux siècles avant notre récit environ. Or, ces deux royaumes, qui à l'origine étaient un seul peuple, étaient devenus ennemis, au point de conclure des alliances stratégiques opposées. Le royaume du nord, Israël, a choisi de s'allier avec la Syrie, qu'on appelait aussi Aram. Et c'est pour ça qu'on voit ce mot dans notre texte. Alors, si vous voyez en bleu pâle, vous avez donc, alors là, c'est appelé Damas, plus généralement, donc la Syrie. Le royaume du nord, donc Israël, s'est allié avec son voisin syrien. Le royaume du sud, Juda, a choisi de s'allier avec la Syrie, A-2-S-Y-R-I-E, vous voyez comme ça nous simplifie la tâche, qui était l'ennemi de la Syrie. Alors, pour faire plus simple, on va appeler les pays par le nom de leur capitale, une proposition que je vous soumets. Donc, Ninive pour la Syrie et Damas pour la Syrie. Revenons à notre roi Akaz. Au moment où commence notre récit, au début du chapitre 7, il se trouve dans une situation de grand danger. Pourquoi ? Parce qu'il fait face à une coalition formée par le royaume du Nord, Israël, qui est allié donc à Damas. Et Israël et Damas veulent conquérir Juda et reprendre le contrôle de Jérusalem. Donc ils menacent directement Akaz et son royaume. Et ces éléments de contexte éclairent notre verset 1. Retsin, roi d'Aram, c'est-à-dire roi de Damas, s'est allié avec Pekah, qui est roi d'Israël, le royaume du Nord. Et ensemble, ils veulent faire la guerre à Juda, le royaume du sud. Ça va ? Bon. Donc les troupes syriennes sont arrivées en Israël, royaume du Nord, avec la bénédiction du gouvernement local, et ils se rassemblent autour de la frontière. Donc imaginez maintenant que vous êtes un roi de 20 et quelques années, genre le prince William, par exemple, en un peu plus jeune, avec un peu plus de pouvoir, mais sans Kate, et vous apprenez que votre ennemi s'est allié avec une grande puissance étrangère et cet ennemi s'apprête à vous faire la guerre. Comment est-ce que vous réagissez ? Mal, a priori. Le prophète Ésaïe emploie un joli langage poétique pour décrire la réaction d'Akaz, verset 2. Le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple se mirent à frémir comme les arbres de la forêt sous le vent. Autrement dit, ils balisent, ils ont peur et c'est compréhensible. Il y a les ennemis qui sont à la frontière. Dans cette situation, Dieu envoie vers Akaz son prophète, le prophète Ésaïe, qui est donc porte-parole de Dieu. Il l'envoie retrouver le roi Akaz. Et en l'absence de GPS, il lui donne des instructions fort précises. « Sors, je te prie, à la rencontre d'Akaz, toi et chez Ariashoub, ton fils. » Où ça ? Vers l'extrémité de l'aqueduc du réservoir supérieur sur la route du champ du teinturier. Ça a le mérite d'être précis. Donc Ésaïe s'exécute, il arrive à l'endroit indiqué. Alors on peut se demander pourquoi est-ce qu'Akaz se trouvait là, à côté de l'aqueduc, plutôt que dans son palais royal ? Ça peut surprendre. Alors certains commentateurs supposent qu'il inspectait un lieu stratégique pour l'alimentation en eau de Jérusalem. Au moment où les ennemis s'apprêtent à arriver, il se trouve à cet endroit stratégique. C'est possible. En tout cas, c'est là qu'Ésaïe le retrouve. Ésaïe est porteur d'un message de la part de Dieu. Et ce message est celui-ci, tout nous est raconté dans un langage poétique, hein, encore une fois, d'où la difficulté un petit peu. « Sois tranquille, n'aie pas peur, que ton cœur ne mollisse pas devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère ardente de Retsin, d'Aram et du fils de Remalia. » Le fils de Remalia, en fait, c'est le roi Pekah, roi du royaume du Nord. Dieu remet à leur place ces envahisseurs potentiels. Il les réduit à des bouts de tison fumant, c'est-à-dire des petites braises, ce qui reste après un feu, des petites braises qu'il peut éteindre sans problème. Et justement, c'est ce que Dieu va faire, comme il l'annonce à partir du verset 7. Cela ne tiendra pas, cela n'aura pas lieu. Donc ce projet d'invasion de Juda, eh bien Dieu ne permettra pas que Damas et le royaume du Nord y arrivent, qu'ils prennent le contrôle de Juda. Et là, on peut se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que Dieu veut protéger un roi comme Akaz, qui, d'après ce qu'on lit de lui dans le deuxième livre des rois, était particulièrement corrompu et idolâtre, malgré déjà à son jeune âge. On voit que c'était vraiment un mauvais roi. Pourquoi intervenir contre les projets du royaume du Nord et de Damas? Et puis, pour nous qui lisons ce texte au XXIe siècle, et d'ailleurs à n'importe quelle époque, il y a peut-être une question plus fondamentale encore qu'on se pose, c'est mais quel intérêt? Pourquoi est-ce que Dieu, le Dieu de l'univers, s'intéresse à ce qui paraît être un banal conflit géopolitique, un banal conflit régional? Un premier élément de réponse sur pourquoi est-ce que Dieu intervient, c'est que le royaume du Nord ne se comporte pas mieux que le royaume du Sud, Juda, et son roi, Péka, n'est pas meilleur qu'Akaz, d'après, là encore, la description qui nous en est donnée dans le deuxième livre des rois. Mais de façon plus décisive, Dieu n'a pas oublié que le royaume de Juda est héritier du royaume de David, le grand roi choisi par Dieu. Il n'a pas oublié qu'il s'était engagé solennellement auprès de David à lui donner un jour un héritier issu de sa lignée qui serait un roi universel, un souverain envoyé par Dieu lui-même pour être non seulement le roi d'Israël, mais aussi, bien au-delà, de tous les peuples. Celui que la Bible appelle le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Dieu n'a pas oublié qu'il avait promis à Abraham, des siècles auparavant, que par sa descendance, il apporterait une délivrance à toutes les nations. Donc on a ici un contexte très particulier, très précis, mais Dieu n'a pas oublié le plan large. Et on reviendra d'ailleurs à cette idée. Mais c'est justement ces promesses de Dieu que lui n'a pas oubliées. C'est cela qui nous permet de comprendre l'annonce étonnante qui intervient ensuite. Une annonce étonnante. Au verset 10, Dieu, par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, demande au roi Akaz de lui demander un signe pour prouver ce qu'il vient d'affirmer. Donc Dieu vient de dire, ce projet d'invasion de tes ennemis, ça ne va pas marcher. Ils ne vont pas entrer dans le pays, ça ne va pas réussir. Et Dieu, comme pour donner une preuve supplémentaire au roi Akaz de ce qu'il vient de dire, va lui dire, demande-moi un signe. Ça peut nous surprendre. D'un point de vue général, la Bible ne nous encourage pas à rechercher des signes de l'œuvre de Dieu dans nos vies, mais plutôt à faire confiance à ce qu'il nous a déjà révélé par sa parole. Cependant, c'est important de souligner que Dieu peut souverainement décider de donner des signes, de révéler de façon visible et spectaculaire sa volonté. Et ici, on a le sentiment qu'il veut mettre à l'épreuve le roi Akaz. Dieu, à n'en pas douter, sait qu'Akaz ne recherche pas réellement sa volonté. Peut-être d'ailleurs que le roi Akaz n'est même pas convaincu que c'est vraiment Dieu qui parle. Après tout, celui qu'il a en face de lui, c'est le prophète Ésaïe. Et peut-être qu'il se dit, bon, ok, il y a ce prophète-là qui a une certaine réputation, je vais l'écouter, hein, ça fait partie des responsables religieux qu'on auditionne au moment de prendre une grande décision. Et donc, peut-être qu'il n'est même pas convaincu que la puissance divine se cache derrière ce prophète. Et puis, Akaz est un homme politique. Ce qui le préoccupe, c'est pas l'alliance avec Dieu, c'est plutôt l'alliance politique avec les Assyriens. Donc Dieu sait cela, et on a le sentiment qu'il lui fait passer une sorte de test d'authenticité. Demande-moi un signe, n'importe quel signe, verset 11, soit dans les profondeurs du séjour des morts, soit dans les lieux les plus élevés. Autrement dit, demande-moi vraiment n'importe quel signe miraculeux. On aimerait bien que Dieu nous parle comme ça. Vas-y, Matthieu, demande-moi n'importe quel signe et je te le donnerai. Il m'a jamais dit ça en ces termes-là. Encore une fois, par contre, il m'a révélé par sa parole des promesses essentielles qui fait que je n'ai pas à avoir envie ou besoin particulièrement que Dieu me donne tel signe. Je ferme la parenthèse. Réponse, donc Dieu promet à Akaz, enfin propose à Akaz de lui donner un signe extraordinaire. Nous, on sauterait sur l'occasion. Mais la réponse d'Akaz, je ne demanderai rien, je ne provoquerai pas le Seigneur. Voilà une phrase qui a toute l'apparence de la piété. Peut-être qu'Akaz a en tête une parole dans le livre du Deutéronome au début de l'Ancien Testament, chapitre 6, verset 16, « Vous ne provoquerez pas le Seigneur, votre Dieu. » Mais Dieu n'est pas dupe. La fausse piété d'Akaz masque un vrai manque de foi. S'il croyait vraiment que c'était Dieu qui parlait par le biais d'Ésaïe, il ne se permettrait pas de dire « Non merci Seigneur, non merci, je ne demanderai rien ». Quand Dieu nous offre quelque chose, on ne va pas s'amuser à dire « Non merci Seigneur, je me débrouillerai autrement ». Et pourtant, c'est ce que nous avons tendance à faire, bien souvent, notamment vis-à-vis du don le plus magistral, le plus incroyablement généreux de Dieu, son Fils Jésus-Christ, et le salut qu'il est venu nous offrir gratuitement. On a tendance à préférer à ce don gratuit la fausse piété d'une pratique religieuse rituelle ou de justifier nous-mêmes notre vie par tout ce que nous pouvons faire de bien ou notre CV, pour ceux qui étaient là au culte de ce matin, il en a été question. On essaie de gagner cela par nos efforts. Et en fait, si on préfère au don de Dieu notre fausse piété, eh bien c'est une façon de mépriser Dieu et de le traiter comme s'il était une vulgaire idole qu'on peut manipuler pour avoir des bénéfices de sa part. Donc Akaz se donne l'apparence de la religiosité tout en rejetant ce que Dieu lui offre. Mais sans doute qu'il y avait chez Akaz d'autres motivations. Peut-être qu'il s'est dit que s'il demandait un signe, et que si par hasard ce signe se concrétisait, il serait obligé, peut-être devant son opinion publique, de revenir à l'adoration exclusive de Yahvé, le Dieu d'Israël. Or, Akaz avait tout intérêt à rester idolâtre et à rester polythéiste, païen, comme on le voit encore une fois dans le livre des Rois. C'est ça aussi qui lui permettait d'être lié au pouvoir assyrien. C'est ce qui lui permettait d'être dans l'air du temps, d'un point de vue religieux. À l'époque, pour tous les autres peuples, c'était vraiment une folie, cette idée qu'il y avait un seul Dieu. Tous les peuples avaient une quantité de dieux qui occupaient chacun, en quelque sorte, un secteur de l'existence. Mais encore une fois, Dieu n'est pas dupe. Et le prophète Ésaïe, qui est son porte-parole, ne s'y trompe pas non plus. Verset 13, il reprend sévèrement le roi Akaz. Et au-delà, voilà, toute cette lignée de David. « Écoutez, je vous prie, maison de David, ne vous suffit-il pas de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu ?» Quand il dit « maison de David », c'est une façon de dire « dynastie de David ». Jusque-là, on suit à peu près l'histoire. On a donc un jeune roi arrogant qui refuse de prendre au sérieux les paroles du prophète de Dieu. Donc le prophète va le reprendre sévèrement et il va affirmer que malgré le refus d'Akaz, Dieu lui-même va décider de donner un signe de sa puissance, un signe de son désir de délivrer son peuple. Alors quel va être ce signe ? Imaginez le contexte, Akaz vient de refuser, Dieu lui dit « mais je vais te donner n'importe quel signe, demande-moi n'importe quel signe ». Ah non, 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 je ne demanderai rien, je ne provoquerai pas. Et Dieu ensuite dit « moi je donnerai un signe ». Alors là on s'imagine quelque chose vraiment spectaculaire du genre « demain tu verras une éclipse du soleil et tu sauras que je mettrai en déroute tes ennemis », quelque chose comme ça. Voici quel est le signe que Dieu promet. La jeune fille est enceinte, elle mettra au monde, le Seigneur lui vous donnera un signe, la jeune fille est enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera du nom d'Immanuel, c'est-à-dire Dieu est avec nous. Pardon ? Il y a une armée qui fait le siège du pays. Dieu promet la délivrance. On attend de voir le signe qu'il va donner. Et le signe qu'il donne, c'est une jeune fille enceinte qui va donner naissance à un fils. Comment comprendre ce changement total de registre ? Certains spécialistes pensent que le prophète annonce ici la naissance d'un roi qui allait intervenir dans un avenir proche, peu après Akaz. Peut-être le roi Ézéchias qui a réunifié brièvement les royaumes d'Israël et de Juda. Le problème avec cette hypothèse, c'est que dans la section qui va des chapitres 7 à 9 d'Ésaïe, ce mystérieux enfant à naître sera mentionné à nouveau. Et dans des termes saisissants, notamment au chapitre 9, verset 5, « Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, il a la souveraineté sur son épaule, on l'appelle du nom de conseiller étonnant, Dieu héros, Père éternel, Prince de paix. » Ça paraît quand même difficile de penser que c'est le roi Ézéchias qui est décrit dans ces termes. Certains diront oui, mais il y avait des rois antiques qui se prenaient pour Dieu, qui s'arrogeaient une identité divine. Mais ici, on parle de la Bible, qui est tout entière centrée sur l'affirmation qu'il y a un seul Dieu, créateur de l'univers, et que les hommes sont des créatures créées par Dieu, à ne pas confondre avec Dieu lui-même. Dieu annonce ici à Akaz qu'un autre roi viendra, dont la personne et dont le règne seraient absolument incomparables avec toute autre royauté. Un roi qui manifesterait la présence de Dieu auprès de son peuple, de telle sorte qu'on pourrait dire, qu'on pourrait l'appeler Dieu avec nous, ou encore Dieu héros. Ce texte est saisissant dans sa manière de superposer deux dimensions totalement différentes de l'intervention de Dieu dans l'histoire. Alors le roi Akaz, lui, il est au ras des pâquerettes. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de savoir s'il va gagner ou perdre la bataille contre son ennemi syrien et israélite. Or, Dieu lui annonce la délivrance, une délivrance qu'il n'a pourtant rien fait pour mériter. Mais lorsqu'il décrit cette délivrance, Dieu change de registre totalement et parle de complètement autre chose, en évoquant une jeune fille qui donnera naissance à un mystérieux personnage qu'on appellera Dieu avec nous. La suite du texte est elle aussi un peu mystérieuse et difficile à comprendre au premier abord. Ésaïe commence par préciser, toujours en termes poétiques, que ce roi, donc Dieu avec nous, Dieu héros, va grandir dans des conditions modestes, alors que son pays est en guerre et dans une situation de pauvreté. L'enfant, en effet, se nourrira de lait fermenté et de miel, nous dit le verset 15, alors qu'il a atteint l'âge de raison. Ce qu'Ésaïe nous dit, si je le comprends bien, c'est que même passé l'étape du lait maternel, l'enfant n'aura toujours que du lait et du miel à manger. Un peu plus loin, au verset 22, on voit qu'alors que le pays est dévasté et pauvre, c'est toute la population qui n'aura que du lait et du miel pour se nourrir. Donc ici, c'est plutôt une image de pauvreté qu'une image d'abondance. Certains, c'est vrai, comprennent ces images autrement, mais le plus important n'est pas là. Ésaïe annonce à Akaz que la naissance de cet enfant mystérieux, ce n'est pas pour tout de suite. Avant même cette naissance, ses ennemis, Damas et Israël, seront vaincus. Alors j'imagine qu'à ce moment-là, Akaz s'est dit « Enfin, j'ai l'info que je voulais. J'ai rien compris à cette histoire de femme qui va accoucher, etc. Mais là, je viens d'apprendre que mes ennemis vont être vaincus. C'est tout ce qui m'intéressait. » Mais le prophète continue au verset 17. « Le Seigneur fera venir sur toi, Akaz, sur ton peuple et sur ta famille, des jours tels qu'il n'y en a pas eu depuis le jour où Éphraïm s'est éloigné de Juda. » Sous-entendu, trois petits points, le roi d'Assyrie. Il y a une sorte de périphrase ici, mais il y a des jours terribles qui vont venir, et ces jours, il les résume par le roi d'Assyrie. Et vient ensuite, au verset 18 à 25, une description poétique de l'invasion assyrienne, qui effectivement aura lieu quelques décennies plus tard. Dieu reste pleinement souverain dans l'histoire. Il va effectivement mettre en échec le projet d'invasion des Israélites et des Syriens. Mais à cette « bonne nouvelle » entre guillemets pour le roi Akaz, il ajoute immédiatement une mauvaise nouvelle. C'est que cet allié assyrien en qui Akaz se confie, eh bien lui-même va envahir Juda. Et si on suit bien le raisonnement du verset 16, tout cela, toutes ces péripéties politiques, elles auront lieu avant la naissance d'un enfant mystérieux qui sera appelé Dieu avec nous. C'est comme si Dieu disait à Akaz, je sais que ton seul souci, c'est d'être délivré des Israélites et des Syriens, Israélites du Nord et des Syriens. Tu ne te soucies pas de croire en moi, tu ne te soucies pas de me servir comme seul Dieu, tu t'intéresses uniquement à tes succès politiques et militaires. Eh bien, cher Akaz, sache que ton pays ne sera pas envahi cette fois-ci. C'est vrai. Par contre, il le sera un peu plus tard par celui qui est aujourd'hui ton allié, celui sur qui tu te bases aujourd'hui, le roi d'Assyrie. Mais, cher Akaz, tout cela est sans grande importance, parce que le véritable signe, il va venir plus tard. Je vais faire quelque chose de bien plus grand, quelque chose d'incomparable. Une jeune fille va donner naissance à un garçon qu'on appellera Dieu avec nous, un enfant qui naîtra et grandira, pourtant dans la pauvreté, mais qui manifestera et incarnera ma grande intervention. Voilà qui sera infiniment plus important que de gagner ou de perdre cette guerre immédiate. Et la suite du texte confirme l'écart de dimension entre les événements immédiats et cet événement magistral à venir, qui est associé donc à la naissance d'un enfant. Dans ce texte, on a un rappel précieux que Dieu voit bien au-delà des circonstances immédiates. Et qu'aussi difficiles que soient ces circonstances, lui, il ne perd jamais de vue le plan large. C'est vrai au niveau mondial, mais c'est vrai aussi dans nos vies, à chacun d'entre nous. Alors que le peuple d'Israël est divisé dans ce texte, plongé dans la guerre civile, alors que l'idolâtrie est généralisée, on a comme un dézoom spectaculaire qui nous permet de voir la vue d'ensemble et de constater que Dieu n'a pas oublié ses promesses. Au-delà de l'alliance qu'il a conclue jadis avec Israël par Moïse, il a toujours eu en vue de se réconcilier avec l'humanité dans toute sa diversité. Au-delà des délivrances temporaires également, il a toujours eu en vue une délivrance parfaite et éternelle. On a aussi un rappel que Dieu, dans sa grandeur, n'hésite pas à intervenir dans notre petitesse. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, parce que notre monde et notre vie sont faits de petitesse. Petitesse dans notre quotidien, soucis matériels, soucis professionnels, soucis relationnels, etc. Petitesse à l'échelle du monde, des hommes et des femmes en position de responsabilité qui se disputent comme dans une cour de récré. Pire, des conflits ethniques futiles qui pourtant donnent lieu à des guerres civiles atroces. Un nivellement par le bas des valeurs, des fondements même de notre civilisation. Et face à tout cela, c'est tentant de se dire que Dieu est bien loin et de perdre de vue la vue d'ensemble. Mais Dieu est Dieu. Lui, il garde un contrôle parfait sur l'univers. Il tient ses promesses. Et si nous pouvons aujourd'hui avoir confiance que Dieu tient ses promesses et qu'il tient en réserve pour nous un avenir magnifique dans une création entièrement renouvelée, si nous pouvons croire encore à cela, malgré ce que nous constatons chaque jour autour de nous, la médiocrité et la souffrance du présent, eh bien c'est parce qu'il a tenu sa promesse la plus incroyable, la plus audacieuse. Comme ça a été dit plus tôt dans le culte, celui en qui toutes ses promesses sont un oui massif et général. Il est venu lui-même parmi nous, en la personne de son Fils Jésus, Dieu avec nous. Le roi Akaz était loin d'imaginer tout cela. Alors si Dieu a fait ça, s'il a été prêt à venir en chair et en os, naître parmi nous, vivre parmi nous, mourir à notre place, que ne fera-t-il pas pour nous aujourd'hui? Noël, c'est le rappel de ce que dans la médiocrité de nos circonstances, nous sommes appelés à connaître notre Créateur, pour vivre avec lui, dès aujourd'hui, l'avant-goût d'une vie entièrement renouvelée, dont il est le seul maître. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions parce que, avec cette période de Noël, au-delà des traditions, au-delà des habitudes qui peuvent être pour certaines bénéfiques et qui peuvent nous rappeler ce que tu as fait, tu nous adresses par ce texte qui parle dans notre réalité un rappel de ce que tu es souverain dans nos circonstances. Il est parfois difficile de faire cadrer la bonne nouvelle de Noël, la nouvelle joyeuse de ta venue dans ce monde, avec le constat d'un monde sombre, triste, souvent désespéré. Bien souvent, nous avons du mal à comprendre comment ces deux réalités, ces deux vérités cohabitent. Tu nous rappelles, notamment par ce texte ce soir, que tu restes souverain et qu'au-delà des réalités présentes, tu n'as pas perdu de vue tes promesses. Alors Seigneur, pour nous qui nous plaçons, qui avons eu le privilège de naître, de grandir après la venue de Jésus-Christ, donne-nous de regarder d'une part à l'avenir, pour nous rappeler que cette création qui aujourd'hui est tiraillée et souffrante, eh bien un jour tu vas pleinement la renouveler, tu vas faire toute chose nouvelle. Mais à nous à regarder aussi vers le passé et à nous rappeler Noël, à nous rappeler ton incarnation, ta venue dans ce monde pour vivre en chair et en os avec nous, pour être Dieu avec nous, pour mourir à la croix et subir la peine que méritaient nos fautes. Seigneur, donne-nous de nous rappeler que ce que tu as fait à cette époque-là, c'est la garantie que tu vas faire ce que nous attendons encore, c'est-à-dire le renouvellement de toutes choses. Encourage-nous les uns et les autres par ces paroles. Donne-nous de nous rappeler que tu es présent parmi nous et que nous pouvons aujourd'hui te parler librement. Au nom de Jésus. Amen.